Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Ce Radio Bark, le 13e de la 8e saison, commence l'année 2022. Bonjour, monsieur le maire de Narbonne, Didier Mouly.
Bonjour Jean-Claude, bonjour à chacun de vos auditeurs et permettez-moi, puisqu'on est encore dans la bonne période, de souhaiter une heureuse année à l'ensemble de vos auditeurs, à l'ensemble des habitants qui sont sur le périmètre de diffusion de Grand Sud FM. Une bonne et heureuse année.
Merci à vous. Alors, en recevant le maire de Narbonne, je reçois maintenant également le président.
Alors, si vous permettez, le président de Grand Narbonne va souhaiter une bonne année également.
À un périmètre d'extension plus large.
Exactement.
Donc, le problème est posé en quelque sorte. Les questions que je vais vous poser, Didier Mouly, s'adresseront tantôt à l'un, tantôt à l'autre et tantôt aux deux en même temps parce que il y a de plus en plus un enchevêtrement entre la gestion municipale et la gestion communautaire. Donc, c'est un avertissement pour les auditeurs. Si on a l'impression que nous passons du coq à l'âne, c'est...
Mais soyez persuadés que nous ne parlerons pas que du Grand Narbonne par rapport à Narbonne ou l'inverse.
Voilà,
c'est le territoire de la Narbonnaise qui est concerné par l'émission.
Alors, on va quand même commencer sur des points qui sont tout à fait communaux, municipaux. Je parle de l'abattage des arbres. Les Narbonnais qui se promènent en centre-ville ces jours-ci ont pu le voir. Un certain nombre de platanes, c'est essentiellement des platanes, je crois, ont été abattus sur le cours Mirabeau. Alors, c'est pas nouveau. Ça fait des années que le phénomène dure. C'est le chancre coloré, une maladie apparemment incurable qui touche des milliers de platanes. Et de temps en temps, ça tombe sur un endroit. Et dans ce cas-là, il faut agir. Alors, c'est l'État qui agit, monsieur le maire.
Je pense que vous avez l'exemple parfait d'une communauté d'agglomération qui a chacune de ses communes, ou la plupart de ses communes, qui sont touchées par cette maladie. Il existe sur le territoire de la Narbonnaise des platanes dans toutes les communes. Et ce n'est pas parce qu'une commune est traversée par un cours d'eau, quelle que soit cette nature, que pour autant ces arbres seront touchés. C'est tous les platanes en général qui sont touchés. On l'a vu sur les bords du canal du Midi, on l'a vu sur les bords du canal de la Robine, et aujourd'hui, la maladie touche des platanes qui sont aux portes de la ville, mais également à l'intérieur de la ville. Certains ont été blessés, et c'est le cas sur le boulevard 1848, où déjà un ou deux platanes ont été arrachés parce qu'ils avaient le chancre coloré. Aujourd'hui, c'est le cours Mirabeau qui est touché. Après la rue de l'Aude, on va avoir tout un paysage qui va changer. La carte postale de la Narbonnaise va être modifiée puisqu'on n'aura plus ces ombrages sauvages qui vont permettre à des allées, des bords de canaux d'être véritablement très agréables par les platanes qui sont au bord.
Oui, ces platanes sont centenaires en général.
Centenaires, voire ça dépend. Plus. Pour la plupart, ils sont centenaires ou plus de 100 ans, mais certains ont été remplacés en ville et on voit qu'il y a des tiges qui sont plus jeunes que les unes que les autres.
Voilà, mais aujourd'hui, c'est inéluctable. Donc, alors, on les abat, il y a un protocole qui fait qu'on en abat un certain nombre autour dans un certain rayon. C'est bien ça?
Voilà. La surveillance des arbres en général et des platanes en particulier est faite par une société mixte qui est missionnée par l'État. Et régulièrement, les collectivités reçoivent des injonctions d'avoir à supprimer des arbres. Pour le chancre coloré, il a été démontré qu'il fallait supprimer plus d'arbres que ceux véritablement touchés, afin d'éviter une progression rapide de la maladie du chancre coloré. Donc, 4 arbres sont infectés sur le cours Mirabeau, 14 arbres vont être éliminés, puisque c'est une distance que l'on prend en considération de la part des services de l'État.
Alors après, bien entendu, on replante. Alors, comment se fait le choix des essences? C'est laissé...
Alors, l'abattage est prévu par l'État, compte tenu de la qualité sanitaire des plantes, mais la collectivité est libre de planter des arbres ou pas. La ville de Narbonne a fait le choix de planter des essences qui vont constituer des îlots de manière à ce que si une nouvelle maladie attaque une catégorie d'arbres, n'oublions pas qu'aujourd'hui, les palmiers, les peupliers, les ormeaux ou les buis ont été atteints d'une maladie différente les uns des autres et modifient l'image que l'on peut avoir de notre territoire. Donc, on ne souhaite pas que tout d'un coup, toute une allée, un quai, un cours soit modifié. On préfère faire donc des îlots et on va planter des arbres différents en fonction des abattages qui vont être produits.
Donc là, la biodiversité, c'est pas un mot vain, c'est vraiment une utilité.
Ça s'applique effectivement à l'ensemble des plantations qui vont être effectuées.
Alors restons dans les travaux qu'il y a en ville, et notamment, puisque vous êtes maire de Narbonne, dans la ville de Narbonne, on sait qu'il y a des travaux le long du stade, des voiries qui sont en train d'être refaites, avec des égouts qui sont réaménagés. Il y a de grands travaux sur tout ce secteur qui est l'entrée est de la ville.
Oui, ces travaux sont en train de se terminer. L'avenue pénétrante à partir de l'échangeur de l'autoroute en entrée est jusqu'au théâtre a été entièrement refaite. L'avenue Jean-Antagnac, profitant des travaux en sous-sol des eaux usées et des pluviales, est refaite également. Et maintenant, la tranche qui va être vue par l'ensemble des Narbonnais, c'est le parking du théâtre et les aménagements le long de la Robine qui vont être réalisés dans les semaines ou mois à venir. C'est tout un quartier qui prend une autre vision, qui apparaît différemment aux yeux des Narbonnais, qui permet un déplacement doux, qui permet également de planter plus de 400 arbres. C'est un quartier qui est en plein changement, en plein bouleversement. Les berges de la Robine sont là aussi pour en témoigner.
Oui, là, il s'agit de construction d'immeubles et de logements.
Oui. Près de 1000 habitants vont rejoindre ce quartier, qui va se faire par zone et par phase. La première, c'est le long du canal, avec déjà 4 immeubles, 3 construits et 1 construction. 2 autres qui sortiront de terre un petit peu plus tard. Et puis, il y aura toute la partie entre l'avenue André Mecle et l'avenue Hubert Mouly, où il y aura d'autres macro-lots et d'autres habitations qui vont se faire.
Il y a aussi des travaux, alors, tout près ou dans ce quartier, sur le stade, le parc des sports
et de la mission. Le parc des sports fait l'objet d'un projet qui est en cours de choix d'entreprise sur l'aménagement de salons de réception dans la tribune d'honneur du stade lui-même. Mais il y a une étude qui est aujourd'hui programmée sur le parc des sports et de l'amitié, à savoir quelle évolution lui donner, puisqu'on sait que c'est un lieu intergénérationnel, avec beaucoup de personnes qui vont s'y promener, y faire des activités sportives, y faire du sport. Donc il faut un petit peu aménager tout cela. Le parc des sports et d'amitié est vieillissant, il faut lui redonner un coup de blanc, une couleur différente, avec des agréments pour l'ensemble des pratiquants plus fonctionnels et plus ludiques.
Puis il y a la partie aussi à leur sport de haut niveau, le rugby notamment, les tribunes. Il y a des D'abord, il y a un éclairage qui est renforcé.
Alors l'éclairage a été déjà...
À la demande pas du club.
C'est pas le club, c'est pour pouvoir évoluer à un certain niveau, il y a des demandes de la part des fédérations qu'il faut respecter. L'éclairage permettant au rugby de jouer en Pro D2 doit être d'un certain nombre de lux. Ce n'était pas le cas. Donc on a réparé un petit peu cette déficience et on a monté l'éclairage au nombre de lux qu'il fallait. Ce qui a donné la création et le positionnement de nouveaux lampadaires sur les casquettes des deux tribunes, ce qui permet de respecter ce qui est demandé par la Ligue de rugby pour pouvoir évoluer en Pro D2 et être filmé.
Et alors le club également, je parle du Racing, notamment pour le rugby, regrettait récemment qu'il n'y ait pas suffisamment de loges pour accueillir les VIP. Là aussi, il y a des travaux qui sont engagés ou prévus.
Ce n'est pas le nombre de VIP qui fera que le Racing aura une activité sportive de meilleurs résultats que ce qu'il peut avoir, malheureusement, et
on
regrette beaucoup aujourd'hui. Le stade a besoin, comme je le disais, d'être un petit peu modernisé et la partie de tribune doit faire l'objet de la création de salons de réception, puisqu'on ne parle plus de loge, on parle de salons de réception. Le projet a été validé par la ville, financièrement et techniquement. Aujourd'hui, on est dans la phase du choix de l'entreprise, et dès que cela sera fait au cours de ce mois-ci, le permis de construire pourra être travaillé avec cette entreprise et son architecte, et le dossier déposé. Il faut envisager, à la fin de l'année ou au cours de l'année 2023, la livraison de nouveaux salons de réception sur les tribunes.
Voilà. Donc, c'est dans les tuyaux, comme on dit.
C'est plus que dans les tuyaux, c'est largement engagé, puisque le financement a été acté au Conseil municipal dans le cadre du vote sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement.
Voilà. Et quels que soient les résultats du Racing,
ça n'a rien à voir avec les résultats sportifs, ça a à voir avec une réception, un réceptif de nettement meilleure qualité.
Alors, Didier Mouly, puisqu'on est dans les travaux, évoquant d'autres travaux ou d'autres projets de travaux, il y a une grande passerelle au-dessus de la voie ferrée qui est prévue entre le lotissement qui est sur l'ancienne route de Cuxac et puis, je crois, les fournils de Gilles de l'autre côté, route de Béziers. Où est-ce que ça en est? Parce que c'est réclamé à corps et à cri, on s'en doute, par les gens intéressés.
Jean-Claude, le lotissement s'appelle les Pléiades. Et c'est sur l'ancienne distillerie, oui, en bordure du canal du Midi. L'ancienne route de Cuxac, la voie ferrée, il y a un nombre important de voies, et puis c'est l'avenue Carnot. Géographiquement, ça sera peut-être devant le fournil de Gilles, mais je ne peux pas vous dire exactement. Le projet a été conçu, travaillé, en même temps que la réalisation de ce nouveau quartier. Aujourd'hui, à côté des Pléiades, deux lotissements sont prévus, Ribarrot d'un côté et un autre de l'autre côté. Dans cet aménagement de quartier, de manière à faciliter la transition entre cette partie de la ville et la partie plus centrale de la ville, une passerelle a été prévue. Le dossier technique est prêt. Et comme il faut traverser toutes les voies SNCF en hauteur, cela génère beaucoup de difficultés avec les différentes sociétés de la SNCF, puisque la SNCF est divisée en plusieurs sociétés, réseau ferré, patrimoine et réalisation de gros travaux. Donc, face au méandre des sociétés et des contacts que l'on peut avoir à la SNCF, j'ai contacté Monsieur le député, pour qu'il essaye à travers le ministère des Transports d'avoir une porte entrebâillée entre l'État et la SNCF pour permettre à la ville de Narbonne de s'engouffrer par cette porte et d'attoucher les décideurs de la SNCF qui nous permettront de réaliser cette passerelle.
Oui, bon, autrement dit, c'est pas fait encore, il faut que les gens
J'espère
le sachent.
J'espère que ça se fera le plus vite possible.
Oui. Un dernier point peut-être, puisqu'on est toujours dans l'urbanisme et dans l'avenir de la ville par rapport à l'urbanisme. Récemment, la presse faisait état de problèmes à l'ancienne gendarmerie dans le quartier Anatole France. Alors, certains avaient l'air de rendre responsable de cet état de cause le maire, d'autres le président du Grand Narbonne. Qu'en est-il exactement, Didier Mouly?
La caserne Roger, qui est située sur l'avenue Charles Trenet et l'avenue Antoine de France, appartient à l'État et n'appartient qu'à l'État. La ville ou la communauté d'agglomération n'y sont absolument pour rien et n'ont aucune possibilité de protéger, aménager ou prévoir une suite à cette caserne. Les riverains ont, il y a quelques années déjà en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, alerté la ville qui a à son tour alerté les services de l'État. Et il y avait eu un grand nettoyage de ce squat avec l'intervention tant de l'agglomération que de la ville. L'agglomération pour le nettoyage et la ville pour la sécurisation du site. La gendarmerie, un peloton spécialisé, avait vidé les lieux de tous les squatteurs qui y étaient. Malheureusement, le squat s'est reconstitué et aujourd'hui, les riverains se plaignent des mêmes nuisances qu'il y a quelques années en arrière. Mais la ville a beau alerter l'État, pour l'instant, la ville ne peut pas agir sans le consentement de l'État. C'est à l'État de décider. Il faut savoir que le projet qui a été mené par l'État, avec l'information, en informant la ville, est un projet de transformation de cette caserne en logements qui abriteront des personnes qui ont une situation assez difficile. D'une part, à l'OGA est mandaté par l'État pour réaliser la partie urbanisation et habitation, puisqu'il y aura à la fois une résidence de personnes âgées dans des situations modestes et il y aura un accueil de personnes en difficulté, soit dans le cadre de l'hébergement d'urgence que toute ville doit assurer, soit dans l'hébergement de certaines personnes à protéger, je pense aux femmes battues et aux mineurs en difficulté. Et il y aura aussi des associations qui viennent habituellement en aide à toute cette tranche de population qui est non pas en marge de la société, mais qui est en précarité, en difficulté par rapport à la société que nous vivons.
Voilà, donc c'est un véritable pôle.
C'est un véritable pôle où il y aura une mixité de personnes, mais il n'y aura pas, comme certains ont cru et l'ont pensé et l'ont répondu à tort, des SDF. Il n'y aura pas cette catégorie de personnes puisque c'est pas un hébergement de jour, c'est un hébergement d'urgence qui est prévu. Avec les personnes âgées, c'est un autre style d'hébergement et ça ne souffre pas de difficultés.
Voilà. Mais en tout cas, ces précisions sont utiles. Il faut bien savoir aujourd'hui que cet endroit appartient exclusivement à l'État.
À l'État voilà. qui en est le responsable et qui doit assurer la sécurité sur ce site.
Il faut le souligner. On marque une première pause, Didier Mouly. On se retrouve
avec plaisir
pour continuer sur tout un tas de dossiers parce qu'il y a du pain sur la planche.
Merci.